بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله. Nous avons lu le 11e juz يعتذرون إليكم. Et à partir de ce soir, on a réduit le quota de lecture. Au lieu de un juz plus un quart, rouba, un sipara, un quart, on est donc passé à un juz, un sipara. C'est-à-dire pourquoi le tarawih se termine un peu plus tôt, avec pour objectif de compléter, inshallah, le khatm al-Qur'an au 29e, comme on fait depuis 3 ans, à peu près 2 ou 3 ans. Et donc ce soir, on va essayer de voir, inshallah, un verset qui décrit les hypocrites et munafiqin et faire un rapport entre ce verset de la sourate Yunus et un verset qui a été lu hier dans la sourate Al-Anfal. Alors hier au début de la sourate Al-Anfal, yas'alunaka 'anil anfal, dans la première page, il y avait une description de la relation du croyant avec le Coran. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit innamal mu'minuna alladhina idha dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat 'alayhim ayatuhu zadatuhum imana وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. C'est le verset 2, 3 et 4, les vrais croyants. Donc ce verset commence par les vrais croyants. Description du vrai mu'min pour Allah Azza wa Jal sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Et quand ces versets, c'est-à-dire le Coran, leçons récitées, cela fait augmenter leur foi et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Ils placent donc leur confiance en leur Seigneur. Ceux qui accomplissent leur salat et qui dépensent dans le chemin d'Allah de ce que nous leur avons attribué, ceux-là sont en toute vérité les croyants. Ensuite, il y a la description des degrés, des darajats qu'ils auront de la Jannah. Donc, dans ce premier de ces versets de la Sourate Al-Anfal, on avait vu hier les qualités principales du mu'min. C'est déjà une personne dont le iman va augmenter lorsqu'on parle d'Allah Azza wa Jal. Et lorsqu'ils vont écouter les ayats, les versets du Coran, là aussi, ils vont avoir un retour de foi, une augmentation de iman. Et leur cœur se met à frémir lorsqu'ils entendent les ordres et les interdits d'Allah Azza wa Jal. Ay khafat wa fazi'at. Donc leur cœur se met à bouger, à trembler lorsqu'ils entendent les paroles d'Allah Azza wa Jal. Et Ibn Kathir, rahimahullah, il dit que donc, quand le croyant entend, lorsqu'on parle d'Allah, et quand le croyant entend les versets, donc le cœur de ce croyant tremble en écoutant les ordres d'Allah Azza wa Jal, mais ce n'est pas juste une réaction immédiate par rapport à la lecture. Non, cette crainte et cette attention, elle débouche sur les actions. فَفَعَلَ أَوَامِرَهُ وَتَرَكَ زَوَاجِرَ. Autrement, il n'y aurait pas d'intérêt. S'il s'agit juste d'écouter et soit de pleurer ou soit de frémir lorsqu'on entend les versets du Coran et ensuite on reprend une vie tout à fait normale quand on sort de la mosquée, on va dire que cet état, cette émotion restera de l'émotion et cela n'apportera pas grand-chose de la pratique. Non, le mu'min, c'est celui qui, lorsqu'on parle d'Allah, la personne devient attentif, le cœur tremble. Et lorsque on récite les versets, ils entendent les versets du Coran, le iman augmente et leur confiance en Allah Azza wa Jal également augmente. C'est-à-dire qu'il y a un effet immédiat par rapport à ce qu'ils entendent et de leur relation avec Allah Azza wa Jal, il y aura un peu plus de ferveur. Et, comme les Kathir dit, et avec ça, ils vont mettre en pratique ce qu'ils entendent. فَعَلَ أَوَامِرَهُ وَتَرَكَ زَوَاجِرَ. S'il s'agissait d'ordre, ils vont s'empresser à mettre ces ordres en pratique. Et s'il s'agissait d'interdits, immédiatement ils vont s'éloigner de ces interdits. Ibn Kathir, rahimahullah, en commentaire, il donne un autre exemple de verset pour montrer la réactivité du mu'min. Le mu'min est une personne qui est réactive. Lorsqu'il entend les versets, il s'empresse de les mettre en pratique. Lorsqu'il voit un signe d'Allah Azza wa Jal, il y répond immédiatement présent. Dit entre autres, dans le verset qu'on cite très souvent concernant les péchés, « وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهُ فَاسْتَغْفَرُوا لِذْنُوبِهِمْ » Ça, ce sont les qualités des croyants. Si Il leur arrive de commettre un péché, une erreur. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'ils font? Ils pensent à Allah et immédiatement, cette pensée d'Allah Azza wa Jal va déboucher sur le istighfar. Va déboucher sur un istighfar et un istighfar qui sera sincère et avec l'intention de ne plus recommencer. Et ils obtiennent la promesse du pardon de la part d'Allah Azza wa Jal. Donc voilà une qualité essentiel du croyant, augmentation du iman lorsqu'ils entendent les versets. Ça, c'était hier dans Sourate Al-Anfal. Aujourd'hui, dans Sourate Tawbah, on a vu quelques versets qui décrivent, on va dire, deux états du munafiq. Alors, il est important de savoir parce que le munafiq, c'est une personne qui est, soit elle est persuadée d'être croyante, d'avoir iman, mais il n'a pas iman, ou alors c'est quelqu'un qui, à la base, n'a pas iman, mais veut faire croire aux gens qu'il a la foi. Et donc, on doit prendre beaucoup de précautions et faire en sorte de ne jamais retrouver ces khususiyat, de ne jamais retrouver ce genre de réaction dans notre vie. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. On est dans le verset 124 et 125 de Sourate Tawbah. Et quand une sourate est révélée, donc là, on a les mêmes circonstances que dans Sourate Al-Anfal. Il y a un verset qu'Allah Azza wa Jal révèle, et on a vu dans Al-Anfal, les croyants, leur iman augmente. Tandis que les hypocrites, et quand une sourate est révélée, il en est parmi eux qui dit, quel est celui d'entre vous dont elle fait croître la foi? Donc, il demande aux autres, est-ce que quelqu'un a ressenti un effet? Ce verset a été révélé. Est-ce que quelqu'un a l'impression que son iman a augmenté? C'est-à-dire, ils ont la réaction opposée aux vrais mu'minis, décrit par Allah Azza wa Jal comme étant « Ulaika humul mu'minuna haqqa ». Eux, ils entendent les versets, mais cela n'a strictement aucun impact sur eux. Ils le reconnaissent et ils demandent « Est-ce que vous, ça vous a fait quelque chose, la révélation de ces ayats ?» Maintenant, imaginez le prophète alayhi salatu wassalam devait cohabiter avec ce genre de personnes. Quel sabr! Quelle patience le prophète alayhi salatu wassalam a fait preuve dans sa mission. Il ne faut pas croire que autour du prophète alayhi salatu wassalam, les sahaba, alhamdulillah, la majorité des sahaba, ils étaient du côté du prophète sallam. Mais les hypocrites, ça c'était vraiment une maladie spirituelle lorsque le prophète est arrivé à Madinah al-Munawwara. Ces hypocrites ont causé énormément de tort au prophète alayhi salatu wassalam, mais jamais le prophète alayhi salatu wassalam ne s'est emporté, jamais le prophète alayhi salatu wassalam n'a eu de mauvaises réactions face à ces gens, il a fait preuve de patience. Et donc, à Makkah, sa prêche était ralentie, on pourrait dire, ou trouvait une forte opposition avec les polythéistes, avec les mouchlikins de Quraysh, et à Al-Madinah, il n'y avait pas d'opposition clair, direct, parce que la ville de Madinah était censée être entièrement croyante, à l'exception des trois tribus qu'on connaît, mais au sein de la Oumma, il y avait des personnes qui se faisaient passer pour des croyants, mais qui en fait étaient des munafiqines, et donc ils posaient énormément de problèmes au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a le hadith al-Ifk, lorsqu'ils ont accusé Aïcha radiallahu anha de pied des choses, et d'autres exemples encore. Donc là, ces personnes, c'est comme s'ils disent que ça a changé quoi? C'est la révélation de ce verset. Est-ce que quelqu'un a ressenti quelque chose de son cœur par rapport à ce verset? Eux, ils ne ressentent rien. Mais, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, là on retrouve les mêmes termes. فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Quant aux croyants, elle fait certes croître leur foi et ils s'en réjouissent. Donc Allah Azza wa Jalla dit que ces personnes-là, le Coran ne fait aucun effet sur leur cœur, mais de toute façon, ceux qui ont le vrai iman, ces versets vont leur apporter énormément sur le plan spirituel. Et Ibn Kathir, rahimahullah, dit que ces personnes, ça s'attue du verset, « Wa amal ladina fi qulubihim marad », on parle de marad, on parle de maladie. L'hypocrite a une maladie de son cœur. Dit donc, mais quant à ceux dont les cœurs sont malades, elle ajoute une souillure à leur souillure et ils meurent dans la mécréance qu'Allah les protège. Dit que wa man alladhina fi qulubihim maradun, ces personnes-là, quand ils entendent les versets zadatuhum shakkan ila shakkihim, ils avaient déjà des doutes sur la religion, il y avait des choses qu'ils ne croyaient pas, ne voulaient pas accepter, mais quand les versets sont révélés, alors que cela apporte du réconfort aux croyants et cela conforte le mu'min dans le droit chemin, concernant les hypocrites, ça les éloigne de plus en plus du haqq, de la vérité. Et ça, très souvent, on a rappelé que les seuls qui profitent pleinement du Coran, ce sont ceux qui ont iman. ce sont ceux qui ont la foi, alors que le kafir ou l'hypocrite, il ne profite aucunement de la lumière du Coran, et pire encore, ceux qui ils ont cette maladie, ils ont cette maladie spirituelle qui est le nifaq. Au contraire, tout ce qui est haq, tout ce qui est verset du Coran, ça va les déranger, ça va les perturber, ça va les éloigner encore plus du droit chemin. Dans d'autres versets, dit wa nunazzilu min al-Qur'an lima huwa shifa wa rahma lil mu'minin. Dans ce sens, qu'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il envoie les versets, ces versets seront comme un remède et une clémence pour les croyants. Wala yazidu dhalimina illa khasara. Alors que cela va éloigner encore plus les oppresseurs, c'est-à-dire les munafiqin et les mushrikin, ça les éloigne encore plus du droit chemin. Et autre spécificité des munafiqin, awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marratayn thumma la yatubuna wala hum yadhakkarun. Verset 126, ne voit-il pas que chaque année on les éprouve une ou deux fois, malgré cela, ils se repentent ni ne se souviennent, c'est-à-dire ils ne demandent pas pardon, ni ne se souviennent de ces situations. Ibn Kathir dit, « Ay la yatoubouna min dhunubihim as-salifa. » C'est une caractéristique du monafrique, des hypocrites. En aucun cas, ils pensent à demander taouba, à demander pardon pour les péchés qu'ils ont cumulés, ni ils ne se remettent en question. Ibn Kathir, les savants disent, attention, ça c'est une spécificité du munafiqin, de ne jamais demander pardon et de ne jamais considérer dans quel état spirituel on est. On complétera avec un verset qui parle de choses, de la plus encourageante, concernant la mission de notre prophète, alayhi salatu wassalam, et avec une petite histoire à la fin qui, mashallah, elle est magnifique. À chaque fois qu'on relit cette histoire, on se dit que, subhanallah, nous voyons les qualités de notre prophète, alayhi salatu wassalam, en tant que da'iya. Un verset que beaucoup mémorisent, « لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ » Description du prophète, sallallahu alayhi wasallam. On est dans quel verset, là? Numéro, bismillah, numéro 128. Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, min anfusikum, azizun alayhi ma anittum, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, harisun alaykum, qui est plein de sollicitude pour vous, bil mu'minin raufur rahim, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Nous avons là des qualités de notre prophète alayhi salatu wassalam. Comment notre prophète aimait sa ummah, comment notre prophète alayhi salatu wassalam voulait toujours faciliter les choses, que la pratique soit accessible et simple pour n'importe quel membre de sa communauté, et comment est-ce que notre prophète alayhi salatu wassalam faisait de notre guidée, de la hidaya de chaque membre de sa ummah, comme la priorité des priorités. Donc, premier point, « min anfusihim » qu'Allah Azza wa Jal a envoyé quelqu'un parmi eux, « ay min jinsihim wa ala luratihim » il est venu chez les Arabes parmi la tribu de Quraysh, une tribu connue, une des tribus les plus nobles, une des branches les plus nobles parmi les Quraysh. Donc déjà, en termes d'appartenance, il était déjà accepté par l'ensemble des Arabes. Pas comme si qu'il était venu de l'extérieur, où personne ne l'aurait reconnu. Et c'est là la sunnah d'Allah Azza wa Jal, quand on voit les versets « Wa ila adin akhahum huda, wa ila thamuda akhahum saliha » C'est toujours le frère, c'est-à-dire quelqu'un qui fait partie du peuple. Et ça, c'est une sunnah d'Allah Azza wa Jal. Et les ulama dans la branche d'Awa disent également que la da'wah, la prêche la plus efficace, c'est celle qui est faite par quelqu'un qui fait partie du qawm, quelqu'un qui fait partie de la famille, de la tribu ou du village ou de la ville, parce que la personne qui vient de l'extérieur, il peut y avoir un petit effet, on va dire un petit peu original, on va écouter son discours, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais à long terme, sa prêche ne pèsera pas lourd, parce que c'est une personne qui ne connaît pas le contexte, qui ne connaît pas les priorités. Et les gens ne lui feront pas autant confiance qu'ils sont prêts à faire à quelqu'un qu'ils connaissent depuis, mashallah, des années, depuis plusieurs générations, et en qui donc ils ont entièrement confiance. C'était le cas de notre prophète alayhi salatu wassalam, qui est né à Mecca tout le Mukarrama. Et sa da'wah, elle commence à Mecca. C'est pas comme si qu'il est né à Mecca et sa da'wah commence à Ta'if. Ou alors, il est né à Mecca et quand il est enfant, il va à Al-Madina et la da'wah commence. Maintenant, la da'wah devait commencer l'endroit où est né le prophète, alayhi salatu wassalam, parce que le prophète, a grandi, on pourrait dire, sous les yeux de tous ses ulama, ses chefs de tribu. Son père était connu par les Quraysh avant qu'il meure. Son grand-père, c'était vraiment un des notables de Makkatul Mukarrama. Son oncle Abu Talib, rien à dire, il faisait partie également des notables. Donc, Prophète sallam, une personne connue, min anfusihim. Laqad ja'akum min rasulun min anfusikum. Maintenant, dans la suite des versets, puis également lorsque les croyants avaient immigré en Abyssinie et qu'ils avaient été convoqués, donc c'était Ja'far ibn Abi Talib avait dit au An-Najashi, Onigus inna Allah ba'atha fina rasulam minna, dit que Allah a envoyé un prophète parmi nous, c'est-à-dire de notre communauté, de notre ville. Na'rifu nasabahu wa sifatahu. Nous connaissons ses ancêtres, nous connaissons également sifatahu, nous connaissons ses qualités. Wa sidqahu wa amanatahu. Et nous avons vu en lui telle pratique, telle qualité morale. Et les savants disent que le prophète alayhi salatu wassalam a toujours été protégé par Allah azza wa jal de toutes les mauvaises influences de la période de al-jahiliya, de l'ignorance. Toutes les mauvaises choses, toutes les mauvaises pratiques qu'il y avait chez les Arabes à cette époque, le prophète alayhi salatu wassalam ne les a jamais pratiquées. Il a toujours été protégé par Allah azza wa jal afin que jamais une personne ne puisse contester sa mission. Pas que, imaginez qu'il avait connu une enfance ou une jeunesse où il s'était associé au Quraysh dans les erreurs que les jeunes accomplissaient à cette époque, mais lorsqu'il commence à prêcher, les gens auraient pu dire que oui, mais maintenant tu viens nous prêcher la vérité, alors qu'il y a quelque temps tu étais encore avec ces jeunes qui faisaient tel péché, qui étaient dans tel égarement. Donc pour ça, il était ma'soum, innocent, toujours été protégé par Allah. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette histoire, le prophète était enfant, et ses amis avaient entendu des bruits d'instruments de musique, et ils avaient suivi donc ce bruit, et ça venait d'un mariage. Et c'était l'habitude des enfants, pas très poli, donc d'aller mariage et rester manger alors qu'ils n'étaient pas invités. On a des noms, des termes pour dire ça chez nous. Et ça, c'était une mauvaise action. Mais on va dire que étant des enfants, on va dire que c'est pas grave. C'était quelque chose de commun chez les Arabes. Mais Allah Azza wa Jal a voulu protéger le prophète alayhi salatu wassalam, même de cette phase, ce marhala de tufoula, de l'enfance. Et que quand ses amis l'ont essayé de l'amener, dit viens Mohammed, toi aussi tu vas partir avec nous, il a dit non, il n'y va pas. Et lorsqu'ils ont essayé de le forcer, Allah a fait en sorte qu'il perde connaissance. Il s'est évanoui. Et il voulait l'amener quand même, mais son corps, Mubarak, est devenu tellement lourd alors que c'était un enfant, que personne ne pouvait le déplacer. Il devait rester là. Et en aucun cas, il ne devait s'associer à ses enfants dans ce qu'ils allaient faire de, entre guillemets, de mauvais. D'accord ? Le prophète a été protégé par Allah Azza wa Jal et ses qualités étaient connues de l'ensemble des Arabes, comme on l'avait dit encore avant-hier ou il y a trois jours. Son surnom, c'était Al-Amin. Azizun alayhi ma'anitum harithun alaykum bil mu'minin ra'ouf rahim. Donc ça, on a vu la traduction. On avait traité tout à l'heure, c'est quand le prophète sallam se faisait une priorité de faciliter la pratique de la religion, et le prophète sallam a dit inna hadha ad-dina yusr, cette religion, ce din est facile. Allah azza wa jalla a rendu cette religion facile, donc accessible à toute personne. Il n'y a rien de compliqué dans notre din. Il n'y a rien qui est insurmontable de notre religion. Quand on analyse les pratiques, que ce soit les ablutions, que ce soit les prières, que ce soit le pèlerinage ou autre chose, il y a toujours des facilités. Pour le tahara, pour la purification, vous êtes dans un endroit où vous n'avez pas d'eau, vous avez la possibilité de faire des ablutions sèches. Le tayammum. Vous êtes dans un endroit où il n'y a pas d'eau et vous êtes en état de janaba ou d'ihtilam, la personne est en état d'impureté, ou alors il y a de l'eau, mais de l'eau dans un endroit où il fait extrêmement froid, et que donc sa vie est en danger, il n'y a pas possibilité de chauffer l'eau, je veux dire, il n'y a pas nécessité que la personne prenne un roussel. Si l'eau est tellement froide que la personne peut tomber gravement malade, peut-être même mourir à cause de la température de l'eau, ben le tayammum suffira. Nombre de facilités dans notre dîn. Également pour l'accomplissement de la salat, une personne qui a des problèmes de santé ne peut pas prier debout. Il a la possibilité de prier assis, il a même la possibilité de prier allongé. Le saum, le jeûne, une personne est en voyage, n'a pas besoin de jeûner. Une personne est malade, n'a pas besoin de jeûner, il remplacera plus tard. Une femme qui attend un bébé, elle n'a pas besoin de jeûner. Une femme qui allaite et qui a donc besoin de se nourrir pour donner le lait à son bébé, à son nouveau-né, Elle n'a pas besoin de jeûner. Autant de souhoula, de facilité dans la religion. Donc il n'y a aucune complication. Et le prophète sallam était haris. Il faisait tout pour que sa umma puisse pratiquer facilement. Et d'ailleurs, les ulama disent, quand le prophète sallam avait reçu les 50 salats de la part d'Allah azza wa jal, et que Moussa alayhi salam avait dit que ton peuple ne pourra pas accomplir ces 50, retourne auprès d'Allah et demande une diminution du nombre de prières, le prophète sallam a accepté immédiatement. Le prophète sallam n'a pas dit que non, ma umma va le faire, 50, ce sera profitable spirituellement. Notre prophète voulait que la pratique de la religion soit facile, donc et accessible à tout le monde. Hada harisun alaykum ay ala hidayatikum wa wusul an-naf'i ad-dunyawi wa al-ukhrawi ilaykum. Il faisait tout pour que les membres de sa umma réussissaient sur le plan spirituel, ils obtiennent l'akhira tout en ayant leur part dans ce dunya, dans ce monde. Abu Tufail, rapport de Abu Dharr Al-Ghifari, on a dit que Tarakana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ma ta'iri. La citation est longue. D'une prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé, c'est-à-dire il est parti lorsqu'il est mort. Il n'y a pas un oiseau qui pouvait battre de ses ailes, c'est une expression, c'est une métaphore, dans le ciel. Illa wa huwa yudhakiruna minhu ilma. Il n'y a pas un oiseau qui battait ses ailes dans le ciel, à propos duquel le prophète ne nous avait pas donné une explication, une métaphore pour nous faire comprendre que le prophète avait donné des explications sur tout ce qui existe, tout ce qu'Allah lui avait révélé, il nous avait donc expliqué. Il dit « Ma baqiya shay'un yuqarribu min al-jannah wa yuba'idu min al-nar illa wa qad bayyana lakum. » Il n'y a pas une chose qui pouvait nous rapprocher du paradis et nous éloigner de l'enfer que le prophète n'avait pas déjà détaillé, n'avait pas déjà expliqué. Donc le prophète faisait le maximum d'efforts pour transmettre la révélation pour qu'elle soit accessible à chaque membre de sa umma. Et donc on va terminer avec cette histoire qui montre les qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de sa prêche et la patience. On avait parlé de sa patience face aux hypocrites. À Al-Madinah, le problème, ce n'était pas uniquement les hypocrites. Bon, il y avait, ce qu'on sait, hein, certaines personnes qui causaient du trouble de la umma. Il y avait les munafiqines, les hypocrites qui étaient au sein même de la communauté. Et puis, il y avait une autre catégorie de personnes, c'était les bédouins, Al-A'rab. Et les bédouins, c'était vraiment des personnes qui avaient de très mauvaises manières. Et ils se comportaient très mal. Et même à notre époque encore, lorsqu'on a affaire à des badawis, des bédouins, je vous assure que c'est pas facile. Hein. Même parfois, quand à l'époque on travaillait dans le Hajj, quand on avait des démarches à faire et on avait affaire à des madanis, des gens de la ville, c'était plus simple. Mais qu'on avait affaire à des vieux, à des anciens, des gens du désert qui venaient habiter dans les villes, ben, on se heurtait à des comportements vraiment très compliqués et très difficiles à comprendre. Donc les Arabes, les bédouins, c'était vraiment des personnes complexes, hein, très compliquées. Donc, Abu Hurairah rapporte qu'une fois, un bédouin était venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander de l'aide. Il avait besoin d'argent. Et dans certaines sources, il dit « fi damin » parce qu'il devait payer le prix du sang. Et le prophète alayhi salatu wa sallam lui a donné un peu d'argent en présence des sahabes. Le prophète sallam a demandé à ce bédouin « ahsantu ilayk » est-ce que j'ai bien agi? Est-ce que je t'ai honoré? Le bédouin a dit non, c'est rien ça. Ça fait dans ce sens, il a reproché au prophète de ne pas lui avoir donné suffisamment. Et là, les sahaba, ils ont vu que c'était un manque de respect envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils voulaient se lever pour chasser ce bédouin qui vient de je ne sais où et qui vient manquer de respect au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète alayhi wa sallam a dit aux sahaba, « An kuffu ». Ne bougez pas, laissez-le. Et le prophète alayhi salatu wassalam s'est levé de cette assemblée et il est parti chez lui. Il est parti chez lui et il a invité le bédouin à venir le rencontrer dans sa maison. Donc déjà, il a isolé la personne. Les savants disent, voilà, déjà une première étape lorsque quelqu'un pose des problèmes au sein de la société ou alors au milieu d'un groupe et qu'on sent que ça peut déborder à n'importe quel moment, que les membres du groupe peuvent se montrer offensifs face à cette personne. La première des choses, c'est de l'isoler. Faire en sorte que les échanges, même s'il y a débordement, mais ça ne se passe pas devant les gens, pour pas que ça envenime la situation et que ça empire. Donc, Prasam, puis également, Prasam était parti chercher de l'argent chez lui. Et donc, c'était l'occasion d'éloigner ce badawi, ce bédouin, du groupe de sahaba qui était vraiment révolté à propos de sa réaction, de son manque de respect. Et donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, l'a amené chez lui et... Et le prophète lui a dit, inna kajitan ajib. La façon que le prophète s'exprime, la façon dont il parle avec ce bédouin qui lui a manqué de respect devant tout le monde, c'est vraiment le caractère prophétique. Inna kajitana, fasa'altana, fa'a'tainaka. Dit, tu es venu nous voir. Tu nous as demandé de l'aide et on t'a aidé. Après, là, le prophète va lui faire la reproche, mais avec des termes. Subhanallah, rempli de muhabba. Il n'a pas dit que, et tu as osé m'insulter ou tu as osé me dire. Non. Fa'kulta ma kulta. Et tu as dit ce que tu as dit. Sans lui rappeler quelle parole tu as dit. Vraiment, ça c'était usloub. Ça c'était vraiment toute la hikma, la sagesse du prophète. Et tu as dit ce que toi-même tu sais que tu as dit. Et le prophète dit maintenant, voilà, je te donne ça encore. Le prophète lui a donné encore plus d'argent. Il ne l'a pas réprimandé devant les sahaba. Il ne l'a pas chassé. Il n'a même pas fait une reproche. Au contraire, il a juste rappelé que tu as dit telle chose. Voilà, maintenant on va te donner encore plus. Parce que tu estimes qu'on ne t'a pas suffisamment honoré. Donc, fazadahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam shay'a. Et là, le prophète lui demande, ahsantu ilayk, est-ce que maintenant j'ai bien agi avec toi? Est-ce que maintenant je t'ai honoré? Et là, le bédouin dit, na'am, fajazakallahu min ahli wa ashiratin khaira. Qu'Allah te récompense en mon nom et au nom de toutes les personnes de ma famille. Donc, cette personne était vraiment satisfaite. Et là, le prophète m'a dit, maintenant tu es venu, tu nous as demandé et on t'a donné de nouveau et tu as dit cette parole-là. Mais sache que mes compagnons, ils ont quelque chose qui est loi sur leur cœur. Donc, فَإِذَا جِئْتَ, on va retourner là-bas et tu vas te tenir devant eux et tu vas dire la même chose. حَتَّى يُذْهِبَ عَنْ صُدُورِهِمْ. Et ça, c'est une sagesse prophétique. Les savants disent que le prophète voulait que ce bédouin répète la bonne parole cette fois-ci devant les sahaba afin que cette colère qu'il y avait en eux, cette frustration également que le prophète ne les a pas laissé s'exprimer ou réprimander la personne, ça s'évacue. Donc quand il y a un problème, quand on a pu résoudre le problème, il faut expliquer aux gens que le problème est résolu. Et si la personne s'est rattrapée, on fait en sorte que les personnes qui étaient en colère avec l'individu, ben, ils vont obtenir sa confiance de nouveau. Il va réparer donc son erreur. Et là, le prophète m'a amené ce bédouin. Il a dit que, oh mes sahaba, votre compagnon, inna sahibakum qad ja'ana. Également, le prophète utilise le terme sahibakum, votre compagnon. Pour faire comprendre qu'il fait partie des mu'minines, c'est un de nos compagnons. Même s'il vient de je sais pas quelle région et qu'il rentre à Madina pour la première fois, votre compagnon est venu, nous a demandé, on lui a donné encore. Et là, le prophète va écouter la réponse de cette personne, dit que maintenant, apparemment, il est satisfait. Akadhalik, est-ce vrai? Là, le bédouin dit na'am, fajazakallahu. Et il a dit la même parole, oui, au prophète d'Allah, qu'Allah te récompense en mon nom et au nom de ma tribu. Ensuite, cette personne est partie. Et là, le prophète Ali, salatu wassalam, s'adresse aux sahaba. Déjà, il y a pas mal de leçons de sagesse, là, dans le début de cette histoire. Maintenant, voyons la conclusion, il dit, inna mathali. Wa mathalu hadha al-arabi, ka mathali rajulin. On continue, il dit, cette personne et moi, dans le rapport entre moi et ce bédouin, c'est exactement comme une personne qui avait une chamelle, et que la chamelle, elle s'est échappée, s'est enfuie. Et il y a plein de gens, il y a plein de gens qui vont poursuivre l'animal pour essayer de le rattraper. Et lorsque la chamelle, qui était déjà effrayée, voit les gens courir en train de crier, vociférer, essayer de l'attraper, ben elle prend encore plus peur. Et il se cache, cet animal va se cacher, il va fuir encore plus. Elle dit que jusqu'à ce que le propriétaire du chameau, la chamelle, réalise que ce n'est pas là la bonne méthode. Ce n'est pas en pourchassant l'animal, que l'animal va revenir. Il dit, khallu bayni wa bayna naqati. Et que le propriétaire dit, laissez-moi m'occuper de ma monture. Il dit que, et donc ce propriétaire, il agit bien avec cet animal, il fait preuve de ihsan, jusqu'à ce qu'il va obtenir la confiance de l'animal, qui va revenir vers lui, et il va l'attraper, il va l'attacher de nouveau, et il va monter sur sa monture, et les choses rentrent dans l'ordre. Il dit que c'était là la bonne méthode. Il dit, le prophète dit, وَإِنَّهُ لَوْ أَطَعْتُكُمْ حَيْثُ قَالَ مَا قَالَ لَدَخَلَ النَّارِ. Il dit que si je vous avais écouté tout à l'heure, j'avais chassé cette personne, j'avais réprimandé la personne ne se serait pas rattrapée. Il aurait persisté dans cette attitude et cette personne, ça aurait causé le halak, la perte de cette personne, il serait devenu un habitant du Jahannam, Ashabin Nar, mais j'ai préféré agir correctement, il a pu se rattraper et il a obtenu donc le pardon. Donc ça c'était un exemple où le Prophète nous montre comment il agissait correctement avec n'importe quel mad'u, avec n'importe quelle personne qu'il invitait vers le droit chemin, même si c'est des gens qui avaient à la base un mauvais comportement, mais le Prophète, par son akhlaq nabawi, par son attitude, il pouvait obtenir le cœur de chaque membre de sa umma, et ça, c'est une preuve encore que le Prophète tenait à chaque individu. Ce badawi, ce bédouin n'était pas un chef de tribu, il ne faisait pas partie des notables de telle tribu de Najd ou de Quraysh ou de tel endroit, non, c'était quelqu'un d'inconnu. Le poisson aurait pu se dire que ça c'est un staffelin, c'est quelqu'un qui n'a aucune éducation, c'est un sauvage, on va le laisser partir et puis tant pis pour lui. Non, ça c'était un mu'min et le poisson ne pouvait pas laisser un croyant quitter Al-Madina sans avoir obtenu la guidée, la hidayah. Ça c'était le ihtimam, l'importance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait à chaque membre de sa umma. Et que si nous aussi on reproduit ce trait de caractère nabawi prophétique, quand on invite les gens vers Allah Azza wa Jalla avec hikmah, avec sagesse, mais inshallah on aura mis en pratique la sunnah de Al-Habib sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah Azza wa Jalla nous accorde cette qualité au moins tawfiq illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin.